Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Où va le cinéma français? Les chiffres de fréquentation des salles obscures dans l'Hexagone ont de quoi inquiéter. Une baisse très marquée en 2021. Moins 55% par rapport à 2019, donc par rapport à l'avant-pandémie de Covid-19. Et les premières tendances de 2022 ne vont pas vers une amélioration de la situation. Alors pourtant, l'offre est prolifique. En moyenne, une douzaine de nouveaux films qui sont programmés chaque semaine en France. Oui, mais les menaces sont nombreuses sur le cinéma. Et en premier lieu, eh bien les plateformes de streaming qui captent un public de plus en plus large. Alors concurrence et donc risque de mise en péril du cinéma français, ou bien la complémentarité entre les plateformes et le cinéma est-elle possible? Sous quelle forme? Comment le cinéma français peut-il rebondir? Eh bien, c'est notre débat ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en ligne avec nous. Laurent Creton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'économie du cinéma, et je vais citer votre ouvrage « Économie du cinéma, perspective stratégique ». Guillaume Bachy, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. C'est la plus grosse association de cinéma d'art et d'essai au monde, avec plus de 1300 établissements. Et vous êtes également le directeur de la salle de cinéma Le Palais, qui se trouve à Créteil, près de Paris. Notre troisième invité, Édouard Moria, bonsoir.
Bonsoir.
Président du syndicat des producteurs indépendants, le SPI, et producteur au sein de la société 1001 Productions. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation d'RFI. Première question, est-ce qu'on peut tirer les enseignements des effets de cette crise sanitaire sur le cinéma français? 300 jours de fermeture des cinémas en 2020 et 2021 en France. L'an dernier, après les réouvertures, des restrictions sanitaires qui ont perduré, on peut citer le pass sanitaire, le masque, mais malgré tout, les acteurs du cinéma ont pu, comme tout secteur économique, profiter des aides exceptionnelles mises en place par l'État. Laurent Creton, comment le cinéma français sort-il de cette crise?
Alors tout d'abord, il faut bien distinguer les salles de cinéma qui ont été directement confrontées à cette crise sanitaire, fermeture administrative, masques, contraintes de toutes sortes, avec l'impact que vous avez indiqué pour l'année 2020, pour l'année 2021. Et la situation n'est pas la même en ce qui concerne la création, la production. Sans aucun doute, Édouard Moria pourra nous préciser les choses, mais en dépit de cette crise sanitaire, il y a eu bien sûr un impact sur les distributeurs, sur la production, mais globalement, on est frappé de constater que la passion du cinéma s'est traduite par le fait qu'on a continué à réaliser des films, à les produire, bien sûr dans des conditions parfois plus difficiles en raison de la prise en compte des contraintes sanitaires. Et un autre phénomène qui concerne aussi le cinéma, c'est le développement des séries et une augmentation assez impressionnante des financements disponibles pour de nouvelles productions cinématographiques et audiovisuelles, même si ce sont plutôt les séries qui en ont bénéficié.
Alors, vous avez raison, on a beaucoup tourné en 2021, mais évidemment, le but, c'est quand même d'être regardé. C'est pour ça que j'accentue sur cette question de la fréquentation. Édouard Moria, effectivement, Laurent Creton vous a interpellé. 340 films tournés en 2021. 1,1 milliard d'euros de dépenses. C'est un chiffre quasi record et pourtant la fréquentation qui n'est pas au rendez-vous.
Oui, alors la difficulté, c'est que les temps de production en cinéma ne sont pas du tout les mêmes qu'en audiovisuel et les modèles économiques. Le modèle économique du producteur, du distributeur et de la salle de cinéma sont des modèles économiques très différents. La salle de cinéma, en effet, du jour au lendemain, à cause du Covid et des mesures sanitaires, s'est arrêtée. Les salles se sont fermées du jour au lendemain. Et en effet, à ce moment-là, le gouvernement, le CNC, a pu mettre en place des mesures pour soutenir ces salles en leur disant, voilà, vous avez une perte totale de votre chiffre d'affaires, eh bien, voilà, nous compensons, puisque nous fermons les salles, considérant qu'il y avait un danger sanitaire qui était peut-être à discuter ou discutable, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été choisi. Les salles de cinéma ont été fermées. Donc là, disons que le modèle économique était assez, je dirais malheureusement assez simple, plus de chiffre d'affaires pour les salles de cinéma. Pour la production et la distribution, c'est un petit peu différent, puisque En effet, nous, quand nous produisons des films, quand les films sont distribués, on est sur des modèles qui sont sur un temps très long. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans de travail. Donc, il est évident que le jour où les salles se sont fermées, il n'était pas possible pour nous de tout arrêter. Mmh. On n'allait pas dire aux auteurs arrêtez d'écrire, aux films qui étaient déjà tournés de ne pas se monter. Donc, en effet, c'est un espèce de train, comme disait Truffaut, un tournage, c'est un train qui fonce, voilà, et qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Bah, oui, l'industrie cinématographique ne pouvait pas s'arrêter. Mmh. En revanche, et c'est ce qu'on dit, nous, aux autorités publiques en ce moment, ce qu'on dit à la nouvelle ministre, ce qu'on dit au CNC, c'est que les conséquences de la crise sont pour nous, pour les producteurs, pour les distributeurs, commencent maintenant, en fait. Puisque les films que nous avions produits dans les années 2017, 2018, 2019, qui ont été initiés pendant ces années-là, qui sont sortis en 2020, 2021, n'ont en effet pas rencontré le public qu'on pouvait espérer à l'époque. Et nous, on fait des paris, en fait. Un producteur, ça produit un film en se disant « j'espère que mon film va faire tant d'entrées ». Et évidemment, en ce moment, compte tenu du contexte, d'une sortie tout juste de la crise, les entrées ne sont pas au rendez-vous. Donc, les conséquences pour nous, pour la production, pour la distribution, c'est maintenant, c'est en 2022, c'est en 2023 que les problèmes se posent assez gravement, puisque nous perdons en effet 20, 30, 40% des entrées que nous avions tous imaginées quand nous avions initié ces films. Voilà, c'est un timing qui est différent. En fait.
Et le problème aujourd'hui, en plus, c'est qu'il y a maintenant tous ces films en cascade qui succèdent, qui n'ont pas pu être diffusés pendant ces 300 jours de fermeture des cinémas. Et donc, c'est pour ça que, voilà, je dis 340 films tournés en 2021, il faut bien qu'ils tournent. Il y a 12 films en moyenne qui sortent chaque semaine en France. La question de la rentabilité qui se pose pour ces films-là.
C'est ça. La rentabilité, elle s'appuie sur deux choses. Alors, on a connu une période, les deux dernières années, assez paradoxale. Pour le dire rapidement, en effet, des fermetures, des fermetures administratives, les salles étaient fermées, donc nous ne pouvions pas exploiter nos films. Et en effet, la demande, vous l'avez dit, les signaux, il y a une étude du CNC qui vient de sortir qui nous dit quand même qu'il y a quand même des signes de reprise. Hein, le public plus jeune, par exemple, est plutôt revenu dans les salles de cinéma. Voilà, donc la situation est complexe. Et diverses. Mmh. Je pense que les représentants des salles, et notamment à ARC, vous le confirmeront, la situation est difficile. C'est vrai que le paradoxe, c'est que de l'autre côté, grâce à une nouvelle chronologie des médias, nous avons intégré les plateformes, c'était la problématique que vous posiez, nous avons intégré les plateformes dans notre système de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netflix participe au financement de films, des films de cinéma. Bien, vous l'avez dit, ils financent évidemment depuis longtemps des séries, de l'audiovisuel, mais ils sont aussi rentrés dans notre système de financement de films par une nouvelle chronologie des médias. Et donc, on est dans une situation paradoxale, on a intégré les plateformes dans notre système de financement, et donc, grâce à ça, on a raffermi nos liens avec Canal+, et donc on a de fait de l'argent. Des chaînes de télévision, des médias en général, que ce soit linéaire ou non linéaire, ils nous amènent un peu plus d'argent qu'avant grâce à cette nouvelle chronologie des médias. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, de l'autre côté, comme les entrées ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, ils n'ont pas repris les niveaux de 2019, d'avant-crise. Alors là, de ce côté-là, on perd de l'argent. Donc c'est une situation qui est paradoxale.
Alors, on va évidemment détailler le rôle des plateformes et la complémentarité entre cinéma français et plateformes que vous évoquez, parce que c'est une piste essentielle pour aider le cinéma français. Mais encore sur le constat, Guillaume Bachy, on évoquait justement les cinémas d'arrêt d'essai. Vous êtes le vice-président de l'Association française des cinémas d'arrêt d'essai. Quel manque à gagner, vous, après la pandémie ?
Bah, c'est vrai, vous l'avez dit, on a eu une perte là des entrées. Les entrées ont baissé à peu près de 30%. Et encore, les salles indépendantes, les salles à essai, sont les salles qui s'en sortent le mieux. Les salles qui ont le plus impacté l'après-Covid, c'est les salles de circuit, c'est les salles de multiplex, parce que les films n'étaient pas là, les gros blockbusters ne sortaient plus, et là, il y avait une vraie perte sèche pour ces salles-là. Il faut aussi relativiser, c'est-à-dire qu'on prend aussi cette baisse-là par rapport à 2019. Qui était une très très bonne année pour l'exploitation, une des meilleures qu'on ait jamais vues. Donc ce chiffre quand même de 30% est à relativiser, et puis il est aussi à relativiser par rapport à l'international. Si on prend les chiffres de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, on est plutôt autour de 60-70% de perte de marché. Donc Nous, évidemment, les entrées ont baissé, mais la France a mieux résisté avec les aides. Les salles n'ont pas été fermées, mais mieux résisté aussi parce que le public est présent. Et le public revient, il revient progressivement, l'étude de CNC le montre. C'est les occasionnels qui ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas pourquoi ? Bah parce qu'il manque encore peut-être un petit peu de film, il manque encore aussi peut-être un peu d'attrait du cinéma. Il y a des habitudes qui ont été perdues. Vous l'avez dit, on a été fermé pendant 300 jours. 300 jours, c'est énorme quand même sur un calendrier. Les gens ont perdu l'habitude de sortir. Mais dans les cinémas, mais aussi au restaurant, aussi dans les théâtres, aussi dans les musées, aussi dans les expositions. C'est assez global que ça soit spectacle vivant ou le cinéma. Donc il va falloir remettre en place cette habitude de sortie, il va falloir dynamiser. Les salles aussi sont fortes, elles créent des événements, elles créent des actions pour faire revenir les spectateurs, elles se modernisent. Il y a eu beaucoup de travaux pendant la phase Covid, et là, juste après la phase Covid, il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits par les salles. Et puis, il y a cette question des plateformes qu'il faut prendre de deux façons différentes. C'est-à-dire que, est-ce que voir un film chez soi seul devant un petit écran, même s'il est très grand à l'intérieur de son appartement, est-ce que c'est la même chose que de voir un film en collectif ? Est-ce que l'émotion est la même ? Est-ce que le message intime que le réalisateur a voulu faire passer au spectateur, est-ce que c'est le même message ? Et puis, la question globale, et nous à RSA, ça nous touche particulièrement, c'est qu'est-ce qu'on veut donner comme culture, comme civilisation future? Est-ce qu'on va être une civilisation de l'écran individuel ou est-ce qu'on veut rester une civilisation du collectif, du voir ensemble?
Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Encore une fois, on va revenir sur les plateformes, mais vous avez évoqué la perte d'habitude d'aller au cinéma. Ça renvoie à cette enquête réalisée au début du mois par le CNC. On évoque beaucoup le CNC ce soir. C'est le Centre National de la Cinématographie et de l'Imagerie Animée. Résultats qui ont été dévoilés lundi au Festival de Cannes, qui montrent que plus d'un tiers des sondés affirment être revenus moins souvent au cinéma depuis la réouverture des salles, et qui évoquent effectivement, pour un tiers d'entre eux, un peu plus d'un tiers d'entre eux, 38%, une perte d'habitude d'aller au cinéma. Comment on peut expliquer, Laurent Creton, cette perte d'habitude? C'est surtout les 60 ans et plus qui sont touchés, alors que c'est effectivement un public de choix pour le cinéma, parce que ce sont souvent des retraités qui peuvent avoir du temps. On est à un tournant, c'est culturel. Guillaume Bachy disait que c'était commun à effectivement d'autres activités.
Il faut resituer ça dans la longue durée. Et ça me permet de confirmer ce qu'a indiqué Guillaume Bachy, à savoir que la situation est très contrastée et qu'entre la France et d'autres pays, il faut souligner d'abord la très grande qualité du parc de salles de cinéma, plus de 6000 écrans. Et la crise sanitaire ne s'est pas traduite par une réduction du nombre d'écrans. Au contraire, il y a eu des créations de nouvelles salles et tout un travail de modernisation qui était engagé et qui va se poursuivre parce que c'est nécessaire en termes d'attractivité. Deuxièmement, il faut nous situer dans un contexte sur longue période qui est de multiplication des offres de pratiques culturelles, médiatiques, artistiques, multiplication des écrans, et où se joue la question de rivalité extrêmement dure en termes d'économie de l'attention. Comment capter l'attention des personnes? Donc, multiplication des écrans, le temps passé sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la commodité pour accéder à toutes sortes de programmes, mais pensons aussi à la concurrence de YouTube. Donc, il y a tous ces éléments-là, et l'enjeu, en quelque sorte, c'est que la salle de cinéma, qui avait au milieu du XXe siècle une centralité, j'allais dire, sans égale, garde sa place, et pour moi sa place se caractérise fondamentalement par une différenciation marquée. On s'est rendu compte à quel point pendant la pandémie on peut faire plein de choses à la maison, travailler à la maison, visioconférence à la maison, se faire livrer à la maison. Alors évidemment on pourrait même fermer les portes définitivement. Or, il se trouve que les êtres humains ont une aspiration profonde à sortir, à bouger, à se retrouver, à partager des émotions. Et la salle, de ce point de vue-là, est irremplaçable. Donc, je suis d'accord avec l'idée. Les habitudes, finalement, se sont étiolées. Et tout l'enjeu, maintenant, c'est de les redynamiser avec l'ensemble des éléments, certes la qualité de la programmation, certes des films porteurs qui vont entraîner, amener des spectateurs occasionnels à revenir en salle, mais aussi la qualité de l'expérience cinématographique, donc la qualité des lieux, que ce soit l'architecture, l'accueil, finalement se sentir bien dans cet espace qui est un espace public.
Rapidement, Laurent Creton, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Bachy, ou finalement, justement, face à cette montée en puissance des plateformes de streaming, donc de vidéo à la demande, à la maison, on est face à un choix de civilisation, c'est ce qu'il a dit, entre finalement un écran à la maison ou un écran de cinéma ?
Alors, mon idée, d'abord, c'est que le cinéma, on a vu d'autres, c'est-à-dire confronté à la télévision, multiplication des chaînes, la vidéo, VHS, DVD, l'arrivée des plateformes. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'arbitrage entre plutôt quelque chose qui est le repli dans un espace qui est plus individualiste versus quelque chose qui est se retrouver dans la cité pour partager, et ce qui me permet de rappeler à quel point la salle de cinéma, lorsqu'elle ferme, non seulement cesse d'offrir le spectacle cinématographique tout au long de la semaine et tous les mois de l'année, mais également un effet très défavorable sur son environnement, c'est-à-dire café, restaurant, commerce. Donc, il me semble important de souligner que la salle de cinéma, ce sont bien sûr les films, mais c'est aussi une pratique culturelle. Et mon sentiment, et ça a été dit par Guillaume Bachy, c'est que la situation n'est pas commode, 300 jours de fermeture, plus toutes les craintes, les inquiétudes qui demeurent, mais que nous voyons des signes encourageants, et en particulier du côté des nouvelles générations qui, on le dit souvent, sont sur leur tablette, sur leur téléphone mobile, mais également ont le goût d'aller au cinéma. Quant au public plus âgé, bah disons que c'est un public important pour la fréquentation cinématographique et il y a des programmations, mais aussi une qualité de salle qui va leur permettre de revenir. Mais ce qu'il faut, ça prend peut-être du temps, c'est finalement pouvoir lever un certain nombre de craintes et d'inquiétudes et de retrouver la joie, le plaisir, le bonheur de partager dans le cadre d'une salle de cinéma.
Édouard Mauriat, président du syndicat des producteurs indépendants, vous avez commencé à parler tout à l'heure de votre travail avec les plateformes de streaming. On rappelle que l'audience des plateformes de streaming a augmenté de 37% en 2020 en France selon Médiamétrie, alors que ce soir on parle de la baisse de fréquentation dans les cinémas français, donc il y a clairement un mouvement inverse. Est-ce que vous vous méfiez de cette montée en puissance malgré toutes ces plateformes de streaming ?
Non, on se méfie pas, mais on est prudent. C'est-à-dire que la première difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces plateformes, le centre de décision, c'est la Californie. Donc, il y a aussi l'idée de la défense d'une culture française, d'une culture européenne, qui est évidemment au cœur de la politique culturelle de la France depuis des années. C'est de se dire que on est conscient et on est dans un monde, il y a la mondialisation de la culture, on le sait bien, elle s'accélère évidemment, et on n'est pas là pour l'empêcher ou pour l'interdire, donc on est très heureux qu'il y ait ces plateformes et leur contenu, mais on souhaite évidemment ardemment que nos films, les œuvres françaises, les œuvres européennes puissent elles aussi circuler. Donc c'est un équilibre qu'on connaît hein, depuis des années, je dirais même depuis la création du CNC dont on parlait tout à l'heure, à l'après-guerre. C'est déjà une logique qui est de dire nous avons ces films américains qui viennent en France. Alors ils venaient avec de la pellicule 35 mm. Aujourd'hui, ils viennent sous forme de ces majors, que ce soit Disney+, Amazon ou Netflix. Et dans ce contexte-là, nous voulons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous leur demandons à la fois de venir en France parce que ils sont là de toute façon et les spectateurs les plébiscitent et en même temps on veut les faire contribuer à notre système. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dans le cadre des CRES, MAD, chronologie des médias dont je vous parlais, c'est on les a intégrés dans notre système. Donc aujourd'hui, on n'en a plus peur parce qu'on a réussi à les intégrer, parce qu'on a signé un accord avec Netflix, par exemple, qui nous garantit que Netflix, à côté du déploiement de ces films maison, voilà, comme les, ce qu'ils appellent les originals, à côté de ça, ils vont financer aussi des films français. Mmh. Et c'est ça, nous, ce qui nous paraissait intéressant et important, c'est de trouver la juste place pour que ces plateformes continuent à offrir aux spectateurs, notamment aux plus jeunes spectateurs, hein, c'est vrai, des œuvres originales intéressantes, mais que ça s'intègre dans un système qui garantit aussi aux œuvres françaises et européennes de continuer à exister. C'était vraiment toute l'enjeu et la clé de ce qui s'est passé sur les deux dernières années.
Guillaume Bachy de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Alors pour vous, c'est compliqué d'intégrer les plateformes, mais j'aurais cité le président du CNC, hein, donc le Centre national de la cinématographie, qui a dit qu'il fallait travailler sur la complémentarité des écrans. Ça renvoie à ce que vient de nous dire Édouard Mouria. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'on parle beaucoup des plateformes contre les cinémas depuis le début du Festival de Cannes. Je lis beaucoup d'articles là-dessus. Et nous, à l'AFCAE, on a commandé à l'IFOP une grande enquête, qui est la première enquête sur les plateformes, sur l'utilisation par les gens qui ont des comptes des plateformes, de qu'est-ce qu'ils regardent, sur leurs écrans. Et on a été très surpris. On a été très surpris de voir que, en fait, quelqu'un qui a une plateforme, ou Canal+, un site de streaming, il va consommer massivement des séries. 70% des gens qui nous ont répondu, des 2000 personnes qu'on a interrogées, regardent massivement des séries et très très peu finalement des films de cinéma, 10%, 15%. Et d'autant plus inquiétant, des grands films qui ont été montrés par les plateformes et poussés sur le devant de la scène, comme les films de Scorsese, comme le film de Roma, d'Alfonso Cuarón, comme le Jane Campion, les films des frères Cohen, le film Monk de Fincher, enfin, des films d'auteur, hein, des films qui auraient trouvé sa place facilement sur nos écrans, et particulièrement sur nos écrans à essai, ils ont été vus par 3% des personnes qui ont des comptes sur des plateformes. 3%, c'est-à-dire une toute petite partie des gens qui payent un abonnement mensuel.
Mais ça veut dire quoi, Guillaume Bachy ? Ça veut dire que finalement, l'attirance pour les plateformes, l'augmentation qu'on évoque ce soir, c'est finalement qu'une attirance pour les séries, et donc il y a un profond désamour du cinéma aujourd'hui ?
Ah ben c'est pas un désamour du cinéma, c'est que pour les gens, le cinéma ne se voit pas comme dans une salle de cinéma. Le cinéma, il ne se voit pas sur un site de plateforme, il ne se consomme pas de la même façon. Et clairement, les chiffres que nous, on a recueillis, c'est des chiffres qui sont très impressionnants, hein. 60%, 70% des gens qui ne regardent que des séries. Donc, dans la tête des spectateurs, le temps disponible pour les images en mouvement sur une plateforme, il est dévolu à aussi un processus qui est un processus chronophage. La série, c'est un processus qui tend à regarder un épisode, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis à nous accrocher. C'est comme ça aussi que les plateformes fonctionnent. Pour nous inciter à rester sur la plateforme et à continuer à nous abonner. Donc, à produire de la série de plus en plus pour que, finalement, on consomme massivement de la série. Et puis, une chose qui est aussi importante, c'est qu'à la dernière grande réunion des studios américains, les grands studios ont annoncé la fin du Day and Date, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se rendent compte que les films qui sortent à la fois sur les plateformes et dans les salles de cinéma à la même date, ce n'est pas une bonne solution pour mettre en avant le film. La salle de cinéma, c'est le lieu où naît le film de cinéma. Parce que c'est là où il prend de la notoriété, c'est là aussi il y a du bouche à oreille qui se crée, et si on veut que les films, si les producteurs, les distributeurs, s'ils veulent que les films prennent de l'ampleur, deviennent des œuvres, la salle de cinéma reste un lieu indispensable. Et je le dis aussi aux réalisatrices, aux réalisateurs qui nous entendent, qui se souvient d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui a émergé des plateformes ? Personne. Pour l'instant, les plateformes, ils vont chercher des auteurs dans le vivier des cinématographies, mais ils n'ont pas créé eux-mêmes de nouveaux réalisateurs et de nouvelles réalisatrices.
Et d'ailleurs, très majoritairement, les films sortent prioritairement en salle. Et donc, la question que je veux vous poser, Laurent Creton, vous qui êtes spécialiste de l'économie du cinéma, c'est comment est-ce que, finalement, ces plateformes pourraient devenir une locomotive pour le cinéma français alors qu'elles interviennent après, finalement, la sortie en salle, dans le but, toujours, c'est le thème de notre débat ce soir, d'aider le cinéma français.
Locomotive, ce n'est pas leur fonction. Disons que...
Dans le but de complémentarité.
Ben oui, Édouard Moria a bien souligné que ces plateformes, tout a été fait pour les intégrer dans une nouvelle chronologie des médias et les amener, les obliger à contribuer au financement du cinéma français, du cinéma européen, du cinéma de la diversité. Mais ce n'est pas sans contrepartie, puisque leur visée, et on l'a bien vu ces dernières années, c'est d'accéder directement au consommateur final au travers d'algorithmes, en n'hésitant pas, dans un certain nombre de circonstances, à mener des stratégies visant à contourner la salle de cinéma. Donc la négociation actuellement, elle est très sévère, ce sont des rapports de force, mais je voudrais souligner que dans le rapport de force, l'action de Netflix a chuté lourdement ces dernières semaines en raison des premiers chiffres fort défavorables, c'est-à-dire le désabonnement. On peut s'abonner très facilement à Netflix, on peut aussi se désabonner très facilement. Ce qui veut dire que la concurrence demeurera, mais que la multiplication des offres de films de cinéma rejoint une question qui est finalement la hiérarchisation et le fait que la diversité n'est pas toujours assurée. Il faut souligner que ce qui s'est joué ces derniers mois, c'est l'aggravation d'un phénomène que nous connaissions déjà avant la crise pandémique, c'est-à-dire un phénomène de concentration de l'audience sur un nombre limité de films. Alors que des films connaissent une grande audience, c'est une bonne chose que les spectateurs viennent en salle, mais il faut dans le même temps être très attentif à ce que ces films à gros potentiel ne produisent un effet d'écrasement, parce que la question de notre émission « Le cinéma français est-il en danger ?» doit nous amener à être attentifs à ce que ce qui fait la spécificité du cinéma français et plus largement, j'allais dire, les différentes cinématographies du monde puissent continuer à exister. Heureusement, il y a le Festival de Cannes. Dans le cadre des festivals, le cinéma français obtient de très bons résultats, il est reconnu, mais se joue quand même la question d'une concurrence pour accéder aux spectateurs dans un univers où les rapports de force sont écrasants. C'est-à-dire que même les majors du cinéma français, face aux grands groupes tels que Disney, Netflix, a fortiori Amazon, vous comprenez bien que si on ne défend pas ce modèle-là, il y a le risque qu'il soit écrasé.
Alors, en écho à ce que vous dites sur la concentration des films au cinéma, 45% des entrées en 2021 ont été réalisées par les 20 premiers films. Mais alors, je vous interpelle, Laurent Creton, vous ne pouvez pas dire qu'on manque de diversification, de diversité dans le cinéma français. Je disais, il y a 12 films français qui sortent chaque semaine en France.
Alors, ce chiffre de 45% correspond à la tendance de ces dernières années. C'est de l'ordre d'une quarantaine de pourcents. Ça s'est accru. C'était même en dessous de 40%. Maintenant, vous évoquez ces 12 films, mais ça pourrait être 16, ça pourrait être 18. Simplement, c'est une diversité de l'offre, j'allais dire, pour une part théorique qui est présentée. C'est-à-dire, oui, ces films peuvent être vus, mais ce qui m'importe de considérer, c'est la réalité des pratiques culturelles des spectateurs qui ne vont pas tout à fait dans le même sens, qui vont même dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a une tension contradictoire entre tous ces créateurs, ces producteurs qui veulent faire exister les œuvres et la difficulté qu'il y a à rencontrer les publics.
Il faudrait finalement moins de films, mieux distribués. Rapidement, il nous reste quelques secondes.
Non. Dire cela, c'est absolument inacceptable. Jamais je ne dirais cela parce que je trouve que la pluralité de la création est quelque chose d'absolument essentiel. Mais il y a un enjeu. Une des réponses, ce sont les cinémas d'art et essai, c'est-à-dire une politique qui véritablement est un engagement et un militantisme de ceux qui aiment la diversité et qui se battent pour qu'elle soit préservée et même qu'elle se développe. Parce qu'il y a un goût pour cela.
Et la voix des cinémas d'art et d'essai, on l'a entendu ce soir avec Guillaume Bachy. Merci Laurent Creton, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'économie du cinéma. Et puis notre troisième invité, merci à vous Édouard Moria, président du syndicat des producteurs indépendants. C'est la fin de ce débat du jour. Merci à Florence Ponce et Arnold Assewa à la préparation, Laurent Philippot à la réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. Restez à l'écoute RFI Soir dans 30 secondes. Envie